à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de Washington, lundi 20 août 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir, le Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, officiellement déclaré vainqueur de la présidentielle, la Cour constitutionnelle l'a annoncé aujourd'hui. Au Cameroun, l'opposant Joshua Ossi accuse le président Paul Biya d'être le seul responsable du conflit dans les régions anglophones. En Ouganda, la police et l'armée ont tiré à balles réelles pour disperser des manifestants. Nous parlerons aussi de la Tabaski célébrée dans quelques jours. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, officiellement déclaré vainqueur de la présidentielle, la Cour constitutionnelle l'a annoncé aujourd'hui. Sur place, on retrouve Kassim Traoré, correspondant de VOA Afrique à Bamako.
Pour cette audience solennelle, plusieurs requêtes avaient été formulées. La Cour les a rejetées pour forclusion, manque de preuves ou faute de mandat pour ceux qui ont formulé les requêtes. Manassa Danyogo, président de la Cour constitutionnelle du Mali.
Considérant que chacun des candidats a obtenu ses suffrages suivants. 1. Ibrahim Boubacar Keïta, 67,16%. 2. Soumaïla Cissé, 32,84%.
Avec 67%, Ibrahim Boubacar Keïta est réélu président de la République du Mali pour un bail de 5 ans.
Par ces motifs, article 1er proclame élu président de la République du Mali Ibrahim Boubacar Keïta. Article 2 dit que le mandat de Ibrahim Boubacar Keïta prendra effet pour compter du 4 septembre 2018 à 0h et prendra fin le 3 septembre 2023 à minuit.
Dans 15 jours, Ibeka prêtera serment devant la Cour suprême du Mali. Pour le moment, le candidat Soumaïla Cissé n'a fait aucune déclaration. Quant au président candidat réélu, il s'apprête à prendre la parole à partir de 17h. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au moins 10 personnes ont été tuées dans deux attaques de Boko Haram au cours du week-end dans le nord-est du Nigeria, région en proie aux violences du groupe djihadiste depuis plus de 9 ans. Au Cameroun, le président Paul Biya est le seul responsable du conflit dans les régions anglophones, selon Joshua Ossi, candidat du principal parti d'opposition à la présidentielle d'octobre. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dont Joshua Ossi est originaire, sont en proie depuis fin 2016 à une crise politique qui a dégénéré en un conflit entre forces armées et séparatistes anglophones. Il a fait des dizaines de morts, dont au moins 80 soldats et policiers, et a contraint environ 200 000 personnes à fuir de chez elle. En Ouganda, la police et l'armée ont utilisé des gaz lacrymogènes et des tirs à balles réelles pour disperser des manifestants qui protestaient contre l'arrestation du chanteur et député Bobi Wine. Eric Manirakiza.
Des manifestants ont mis le feu à des pneus et à des palettes en bois et lancé des pierres vers les policiers. Le trafic était bloqué dans le centre de la capitale Kampala. Des policiers anti-émeutes et des soldats ont pris le contrôle des rues qui entourent le marché animé de Kireka et ont fait évacuer des quartiers entiers. Des centaines de commerçants et passants effrayés ont dû quitter les lieux sur une unique file, les mains en l'air sur ordre des soldats équipés de matraques. Sur la rue Nasser, site de nombreuses imprimeries et papeteries, les soldats ont aussi forcé des centaines de personnes à s'agenouiller pendant qu'ils patrouillaient la zone. À l'origine des émeutes, l'arrestation puis l'inculpation du député Robert Yakugulani, plus connu sous le nom de Bobi Wine. Très critique du président Yoweri Museveni, il s'est imposé comme un porte-parole de la jeunesse et des mécontents. Vendredi, son épouse et son avocat ont accusé les forces de sécurité de l'avoir brutalisé en détention. Le président Museveni a qualifié les accusations de fausses informations et a accusé le député de terrorisme visant à intimider les électeurs du parti au pouvoir.
En Afrique du Sud, une commission judiciaire d'enquête a commencé ce lundi à se pencher sur les multiples accusations de corruption au sommet de l'État qui ont abouti à la démission en février dernier de l'ex-président Jacob Zuma. Les détails avec vous, Idriss Fall.
Présidée par le vice-président de la Cour constitutionnelle Raymond Zondo, cette commission spéciale a ouvert ses travaux à Johannesburg. Le juge Zondo a promis que sa commission n'épargnerait personne. Elle doit enquêter sur les éventuelles influences exercées sur le gouvernement ou des entreprises publiques pour en retirer un bénéfice personnel. Elle déterminera aussi si le président Jacob Zuma a violé la Constitution. Les conclusions pourront être transmises au parquet pour des poursuites. L'ancien ministre des Finances Pravin Gordhan, en charge du portefeuille des entreprises publiques, a estimé à 6 milliards d'euros le montant des fonds publics détournés ces dernières années. Il fait partie des nombreux témoins qui doivent défiler à partir de demain mardi devant la commission. Monsieur Zuma est soupçonné d'avoir accordé de juteux contrats et des avantages indus à la famille Gupta, dont il est proche. Monsieur Zuma et les Gupta démentent catégoriquement les accusations portées contre eux.
Les quelques 180 migrants bloqués depuis 4 jours sur un navire au large de l'île italienne de Lampedusa débarqueront en Sicile. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Transports et des Infrastructures. Des sources proches du ministre de l'Intérieur, citées par les médias italiens, assurent pourtant que le ministre ne donnera aucune autorisation de débarquer. Libye, la mission de l'ONU appelle le gouvernement d'Union nationale à poursuivre en justice les groupes armés entravant le bon fonctionnement des institutions étatiques dans ce pays en proie au chaos. 7 ans après la chute de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée entre 2 camps qui se disputent le pouvoir. Le GNA à Tripoli, reconnu par la communauté internationale, et le cabinet du maréchal Khalifa Haftar dans l'est du pays. Dans un communiqué paru tard dimanche soir, l'ONU condamne les violences perpétrées par les miliciens et appelle le GNA et les pays occidentaux à poursuivre en justice les responsables.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump, John Bolton, en visite de 3 jours en Israël. Lors d'une rencontre avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il a appelé les pays européens à intensifier la pression sur l'Iran. Washington, qui s'est retiré de l'accord sur le nucléaire iranien et qui a rétabli les sanctions contre ce pays, attend que ses alliés soutiennent cette politique. C'est dans ce contexte que le géant pétrolier français Total s'est officiellement désengagé de ses projets d'investissement de plusieurs milliards de dollars en Iran, une conséquence directe du rétablissement des sanctions américaines et de l'incapacité des grands groupes européens à s'y soustraire. Un Palestinien de la bande de Gaza a échangé des coups de feu avec les soldats israéliens le long de la frontière. D'après l'armée israélienne, le Palestinien a tiré sur des soldats israéliens qui ont riposté en ouvrant le feu. Incident qui intervient alors que des efforts diplomatiques sont en cours pour une trêve de longue durée. Israël a fermé dimanche le point de passage d'Eretz, hormis pour les malades, après des violences à la frontière pendant le week-end. Fermeture décidée avant le début de la fête musulmane d'Al-Adha. Syrie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, accuse l'ONU d'entraver la reconstruction de la Syrie au moment où le régime de Damas, avec l'appui de Moscou, appelle les réfugiés syriens à retourner dans leur pays. D'après M. Lavrov, et je cite, le département politique du secrétariat de l'ONU a publié et diffusé via le système de l'ONU une directive secrète qui interdit à des organisations appartenant à ce système de participer à tout projet visant à rétablir l'économie syrienne. Tchétchénie, une série d'attaques a visé la police dans le Caucase russe, faisant plusieurs blessés au sein des forces de l'ordre, tandis que leurs auteurs ont été neutralisés. Les autorités estiment que les auteurs sont des jeunes qui ont subi l'influence de partisans du groupe djihadiste État islamique sur les réseaux sociaux. L'Afghanistan attendait aujourd'hui la réponse des talibans à une offre de cesser le feu. Cette offre de 3 mois a été faite par le président Ashraf Ghani. Par ailleurs, la Russie annonce préparer une rencontre internationale sur l'Afghanistan le 4 septembre en précisant y avoir invité les talibans. Plusieurs dizaines de Sud-Coréens d'un âge avancé sont passés aujourd'hui au nord pour y rencontrer des parents qui n'ont plus revu depuis la guerre de Corée à l'occasion de poignantes réunions de famille séparées depuis des décennies. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée aujourd'hui par Eric Manirakiza.
Le Nigeria a enregistré un niveau record de devises avec 91 millions de dollars en 2017. Les entrées s'élevaient à 62,75 milliards de dollars en 2016. D'après la Banque centrale, ce chiffre est en hausse de 45%. Les entrées via la Banque centrale ont atteint plus de 42 milliards de dollars et les sources autonomes ont généré plus de 48 milliards de dollars. Le total des sorties de devises se chiffre à plus de 57 milliards de dollars, largement inférieur aux entrées. L'Algérie et la Mauritanie ont ouvert leur premier passage frontalier. Environ près de 10 millions de dollars ont été investis dans la nouvelle infrastructure, dont 49 unités de construction préfabriquées et comprend 46 bureaux administratifs. Les deux pays visent à dynamiser leurs relations économiques à travers la facilitation de la circulation des personnes et des biens. Ce nouveau projet permettra ensuite de mieux sécuriser la région frontalière de Tindouf, qui sert de trafic et de mouvement de groupes armés. En Éthiopie, le secteur manufacturier n'a atteint que 50% de ses objectifs d'exportation entre 2017 et 2018. D'après le ministre éthiopien de l'Industrie, le secteur a rapporté 487,5 millions de dollars sur près de 998 millions de dollars attendus. Les exportations totales du pays sur la même période n'ont pas dépassé 45,9%. Addis Abeba a mis en place un plan de croissance et de transformation qui devrait permettre au secteur de générer 3,5 milliards de dollars d'ici 2020, avec une croissance annuelle de 21%. Mais les chiffres actuels restent en dessous des objectifs fixés.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Le Nigeria cède face aux demandes de la FIFA.
Oui, la FIFA avait donné un ultimatum aux Nigérians pour restituer le siège de la Fédération Nigériane de Football au bureau élu en 2014. Les instances gouvernantes ont donc attendu le dernier moment pour reconnaître l'élection d'Amadou Melvin Pinnick et s'éviter ainsi toute sanction. La FIFA avait déclaré avoir été informée de la crise au sein de la Fédération nigériane et l'a considérée comme une ingérence. À ce sujet, la FIFA menaçait de suspendre le Nigeria. S'il n'avait pas obtempéré, le Nigeria serait tombé sous le coup de sanctions de la FIFA.
Mohamed Salah en piste pour le titre du meilleur joueur UEFA de la saison.
Même si son mondial en Russie s'est arrêté prématurément avec 3 défaites de l'Égypte au premier tour, Mohamed Salah reste dans l'actualité. Le pharaon est dans la liste des joueurs nommés pour le titre de joueur UEFA de l'année 2018. Finaliste de la Ligue des Champions, sa saison de rêve avec Liverpool lui vaut cette nomination. Luka Modric, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, finaliste de la Coupe du Monde et meilleur joueur du tournoi, ainsi que Cristiano Ronaldo, vainqueur de la C1 avec le Real Madrid, sont candidats à ce titre.
Luka Modric, rappelé en sélection croate.
Le meilleur joueur de la Coupe du Monde en Russie et son complice au milieu de terrain, Ivan Rakitic, figurent dans la liste du groupe de la Croatie pour 2 matchs prévus en septembre contre le Portugal et l'Espagne.
Barrage aller de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, le Benfica reçoit le PAOK Salonique demain, le Bate Borisov contre le PSV Eindhoven, l'Étoile Rouge de Belgrade face à Salzbourg, et puis mercredi l'Ajax contre le Dynamo de Kiev, le Vidi club hongrois face à l'AEK Athènes, les Young Boys de Berne contre le Dynamo Zagreb.
Décoration à venir pour Claude Leroy et Arsène Wenger.
Les entraîneurs français seront décorés vendredi par le président du Liberia, George Weah, dont ils avaient lancé la carrière de footballeur. L'actuel sélectionneur du Togo avait rencontré le jeune lorsqu'il était à la tête de la sélection du Cameroun. Il avait alors contacté Arsène Wenger. Ce dernier avait recruté Weah en 1988 à Monaco, où l'attaquant a lancé sa carrière, passé notamment par le PSG, le Milan AC et avec un ballon d'or, c'était en 1995, le seul glané par un joueur africain.
Le Tour du Faso passera par le Ghana.
La 31e édition du Tour du Faso, qui débutera le 26 octobre, fera une excursion au Ghana lors de la deuxième étape entre la ville de Manga et celle de Bolgatanga, longue de 155 km. Autre innovation sur ce 31e Tour du Faso, le retour de l'épreuve du contre-la-montre par équipe entre Sabou et Koudougou sur une distance de 31 km. On rappelle que la 30e édition de ce Tour du Faso avait été remportée par le Marocain Salah Eddine Mraouni.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au Sénégal, l'Aïd, communément appelée Tabaski, sera célébrée dans quelques jours. Elle est symbolisée par le sacrifice du mouton. Un acte de foi qui est devenu une charge sociale presque obligatoire. Pour éviter d'être la risée du quartier, acheter un mouton est un quasi impératif, même pour les plus pauvres. Cette situation, combinée à la cherté des moutons, pose d'innombrables problèmes aux chefs de famille.
À Dakar, les points de vente de moutons ne désemplissent pas. À quelques jours de la fête de Tabaski, les chefs de famille se débrouillent comme ils peuvent pour trouver un mouton à la hauteur de leurs ambitions. Babacar estime qu'il est impératif d'avoir un beau bélier.
On est au Sénégal et les pratiques culturelles dominent la religion. C'est pourquoi beaucoup de gens achètent des moutons au-delà de leurs moyens. Certains sont raisonnables et se limitent aux recommandations religieuses, mais d'autres se sacrifient pour acheter des béliers à des prix exorbitants, car ils ont honte d'amener un petit mouton à la maison. Ils craignent surtout les moqueries de leur belle famille et de leurs voisins.
Pour Modou Faye, ceux qui achètent des moutons au-delà de leurs moyens se retrouvent souvent dans une situation financière désastreuse après la Tabaski.
La religion a facilité les choses, mais ce sont les gens qui se compliquent la vie. Tu vois une personne qui a la possibilité d'acheter selon sa bourse, mais au lieu de cela, elle va acheter un mouton hors de prix pour finalement se retrouver avec des dettes insoutenables. On voit des personnes qui achètent des moutons à 500 000 francs CFA alors que leur salaire ne dépasse pas 250 000 francs. C'est pourquoi, après la fête, beaucoup de gens sont dans le pétrin.
Souvent pointés du doigt à cause de la cherté des moutons, les éleveurs estiment que les charges qu'ils supportent justifient les prix qui sont imposés aux clients. Abdoulaye Ndiaye tient un point de vente au quartier Zone B de Dakar. Il affirme que malgré tout, les clients ont toujours le choix d'acheter moins cher.
Élever un mouton, c'est trop dur au Sénégal. On dépense beaucoup parce que l'alimentation coûte très cher. C'est très dur d'élever un mouton au Sénégal. Ça s'explique par rapport aux races, parce qu'il y a les Touabir, il y a les Lado, il y a les Balibali. Je pense que les Touabir sont moins chers que les Lado.
Non loin du point de vente de Abdoulaye se tient un client très remonté. Pape ne cache pas sa colère. Il trouve les prix exagérés.
Beaucoup de gens risquent de ne pas avoir de moutons pour la fête car les prix sont anormalement élevés. Les éleveurs font ce qu'ils veulent car il n'y a aucun encadrement des prix. Les autorités devraient limiter les prix car les moutons deviennent de plus en plus chers chaque année. Et si rien n'est fait contre cette flambée des prix, il y aura une année où les moutons seront intouchables.
Au Sénégal, l'Aïd, communément appelé Tabaski, sera célébré une nouvelle fois dans la division les mardis 21 et mercredi 22 août 2018. Considérée comme l'une des plus importantes fêtes musulmanes, la Tabaski est devenue un casse-tête pour la majorité des chefs de famille qui doivent coûte que coûte trouver un mouton pour satisfaire une recommandation religieuse qui se transforme de plus en plus en exigence sociale. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Ouganda, l'arrestation puis l'inculpation la semaine dernière du député Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, a provoqué des émeutes à Kampala. La police et l'armée ont fait usage de gaz lacrymogène et tirs à balles réelles pour disperser des manifestants qui protestaient contre l'arrestation du chanteur et député. Eric Manirakiza, adjoint à Kampala, l'universitaire Adam Iubi.
Bobi Wine représente la jeunesse ougandaise qui souffre beaucoup du chômage, de la pauvreté et beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été résolues par le gouvernement actuel. Alors, l'arrestation de Bobi Wine a provoqué la mère de la jeunesse contre l'État, et c'est ce qui s'est passé, je crois, aujourd'hui à Kampala. La jeunesse exprime la colère contre l'État. La population de la jeunesse en Ouganda, c'est environ 60%. L'arrestation de Bobi Wine est quelque chose de très grand à travers le pays, très grave.
Comment Bobi Wine est-il arrivé à s'imposer justement comme représentant de la jeunesse?
Avant de devenir député, il faisait son occupation, son travail. Il est musicien. Alors, il faisait la musique et les chansons qu'il jouait, certaines étaient des chansons politiques. Alors, et il s'agissait des problèmes politiques en Ouganda, la dictature, le chômage, la pauvreté, et beaucoup d'autres choses. Alors, quand l'occasion s'est présentée, Bob Wine, il s'est dit, ah, c'est une occasion pour moi de devenir député et de pratiquer la politique du pays au sein du parlementaire. Et dès lors, je crois que son ambition s'est augmentée de jour en jour.
Le président Museveni s'est exprimé sur cette affaire. Est-ce que Museveni craint la montée de Bobi Wine, la popularité?
Oui, à mon avis. Parce que chaque fois qu'il y a eu une élection d'un député, depuis l'année passée, c'est le candidat qui a été supporté par Bobi Wine qui a réussi aux élections. Et à mon avis, le président Museveni doit craindre que si les élections présidentielles viennent encore, par exemple, dans 3 ans, et Bob Wine décide de lancer son support contre M. Museveni, ça sera un grand problème pour M. Museveni. Il pourrait, ce qu'on appelle, mobiliser la jeunesse à travers le pays contre le président. C'est possible.
Adam Yubi de l'Université de Makerere à Kampala.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le pape François a condamné dans une lettre les abus sexuels de pouvoir et de conscience perpétrés par des prêtres sur des enfants pendant près de 70 ans en Pennsylvanie, ici aux États-Unis. Cette réaction du souverain pontife fait suite à un rapport détaillant le vécu d'au moins 1000 personnes qui ont été victimes d'abus sexuels de la part d'environ 300 prêtres. Yacouba Ouédraogo a joint le père Gerald Murray, curé de la paroisse Sainte-Famille à New York et professeur de droit canonique.
Le pape reconnaît maintenant dans cette lettre qu'il y avait un grand problème et que ce problème continue actuellement. Et c'est le problème des prêtres criminels qui ont fait des actes sexuels en contre des innocents. Et aussi il reconnaît qu'il y avait un abus de pouvoir, que les autorités ecclésiastiques n'ont pas fait leur devoir de protéger le peuple de Dieu.
L'Église n'a pas toujours condamné ouvertement, en tout cas, ces cas d'abus sexuels de la part de ses serviteurs. Pourquoi le faire maintenant?
Avec les révélations au cas de cardinal McCarrick, qui est l'ancien archevêque de Washington, disant qu'il a fait abus sexuels contre plusieurs jeunes et aussi qu'il avait fait abus sexuels contre séminaristes et prêtres, et qu'il y avait des paiements d'argent pour se mettre en silence les victimes.
Est-ce qu'on pourrait dire alors que c'est le rapport sur les victimes d'abus sexuels dans l'État de Pennsylvanie, ici aux États-Unis, qui a en quelque sorte forcé le pape François à enfin condamner cette pratique?
Oui, et maintenant nous attendons s'il va envoyer quelqu'un pour faire une investigation, comme il l'a fait en cas de Chili, où les évêques étaient impliqués dans le protéger des prêtres criminels. Je pense que cette lettre, c'est seulement un des pas. Il y a des actions judiciaires de part de l'Église pour vérifier et franchement, on doit dire qu'il y a des évêques qui sont virés à cause de leurs actions.
Justement, vous parliez d'évêques qui seront probablement virés. Alors maintenant que l'Église condamne ces abus sexuels-là, quel sort, on se demande, va-t-elle réserver aux auteurs encore en vie et aux complices?
L'histoire est compliquée dans le sens que le rapport identifie beaucoup de prêtres évêques qui sont décédés. Il y a le besoin dans l'Église de protéger l'ordre. On doit identifier et punir ceux qui sont en vie. Ça demande une investigation et ça doit être fait avec célérité. On ne doit pas attendre et je pense que le pape maintenant est conscient de cela.
Parler d'une action en justice, c'est probablement parler d'indemnisation, certainement au bout de la procédure. L'Église a-t-elle les moyens pour indemniser les victimes?
Et l'Église a les moyens, on peut dire. Nous avons déjà payé beaucoup d'argent pour les victimes.
Le pape dit adresser sa lettre au peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut entendre par peuple de Dieu?
Je pense qu'il parle pas seulement aux évêques et prêtres et diacres, il parle aussi aux religieux. religieuses et aussi aux laïcs. La lettre, c'est une indication du fait qu'il est conscient de ce qui s'est passé. Maintenant, il doit faire des actions pour faire face au fait que les gens qui ont fait des mauvaises choses ne doivent pas continuer d'agir comme évêques ou prêtres.
Père général Murray, joint à Malaga en Espagne.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a tiré sa révérence le week-end dernier. Quel héritage a-t-il laissé à l'humanité? Réponse avec l'un de ses porte-paroles, Stéphane Dujarric, qui nous parle aussi de qui était Kofi Annan. Monsieur Dujarric est au micro de Irène Herman-Humbo.
Nous avons perdu, comme on dit en français, un grand monsieur, quelqu'un qui a non seulement pendant toute sa carrière aux Nations Unies travaillé pour le bien de l'humanité, mais quelqu'un aussi après sa carrière aux Nations Unies, comme on le voit, n'a jamais arrêté de travailler pour l'humanité, pour rendre un monde plus juste, plus équitable, pour créer un monde meilleur.
Vous avez été son porte-parole pendant des années. Que peut-on retenir aujourd'hui comme héritage que Kofi Annan a légué à l'humanité?
Kofi Annan a su accompagner les Nations Unies dans le XXIe siècle. Et je crois que ce qui est important à souligner, c'est qu'il a ouvert les Nations Unies aux voies vives de ce monde. Pour la première fois, le monde du commerce était invité à parler. Les ONG ont reçu une place beaucoup plus grande dans les débats. Pour lui, afin de créer un monde meilleur, il était impératif d'avoir les voix non seulement des États, des gouvernements, mais aussi des voix vives.
Justement, certains le définissent comme étant une conscience morale planétaire, indiquant qu'il a essuyé certaines des pires tempêtes de l'organisation. Vous partagez cet avis?
Écoutez, il a été secrétaire général et il a aussi mené les opérations de maintien de la paix pendant effectivement des très grosses crises auxquelles ont fait face le monde et les Nations Unies. Il n'a jamais, pendant son mandat aux Nations Unies, il n'a jamais arrêté de travailler pour les idéaux que nous trouvons dans la charte des Nations Unies. Et il a toujours mis ça en avant.
Monsieur Dujarric, nul n'est parfait, dit-on souvent. Qu'est-ce qui rendait parfois l'homme désagréable?
Effectivement, nul n'est parfait. Et je crois que lui-même a souvent parlé de ses regrets pendant sa carrière aux Nations Unies.
Lesquels regrets, par exemple?
Il est clair qu'il a poussé les Nations Unies à un regard introspectif sur les événements autour de Srebrenica en Bosnie, autour du génocide au Rwanda, pour éclairer où ont été les fautes, où ont été les problèmes au sein du secrétariat, au sein des États membres, du Conseil de sécurité, et pour tirer leçon de tous ces événements tragiques. Mais d'un point de vue personnel, je ne l'ai jamais vu être désagréable avec ses collaborateurs.
Voilà, c'était Stéphane Dujarric, joint à New York par Irène Herman-Humbo. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph. À la présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.